Bonjour à tous, j'espère que l'amplification suffira. Tout d'abord, m'excuser d'emblée par rapport à un langage un peu châtié que j'utiliserai, dans la mesure où je fais référence beaucoup à des doctrines architecturales et que les architectes ont tendance à s'approprier beaucoup de choses. Et donc, la volonté est de construire un propos depuis le dedans de l'architecture, donc depuis les gens qui sont impliqués dans le projet et qui écrivent à propos du projet, donc tout ce qui est traité et doctrine. Je m'écoute que partiellement dans des champs disciplinaires, comme par exemple la linguistique ou autre. Donc j'évoquerai les choses, je fais quelques références à des savoirs extérieurs, mais en termes d'exemples où je m'en inspire. Donc, est-ce qu'on peut une profession d'architecte, de théorie sur l'architecture du dedans. Donc je vous présentais ici, si on veut, la problématisation de ce qui a alimenté mon doctorat, qui sont trois doctrines du XXe siècle. Et donc les termes spécificité et détermination ne sont pas le contenu de ma contribution, mais plutôt la conclusion. Et en fait, ça ouvre, je profite de l'opportunité ici, le fait de proposer ces deux notions. Et en fait, ça ouvre une écriture qui reste à faire. Et donc, je serais ravi d'avoir vos commentaires. Et je vais organiser ma proposition en trois parties. Tout d'abord, situer la posture épistémologique générale qui, à mon avis, alimente ce colloque. Et par la suite, tenter de l'expliquer avec les choses qui m'intéressent plus concrètement, qui sont trois doctrines architecturales du XXe siècle. Donc, l'origine de la question, qu'on peut paraphraser en « la situation de l'œuvre à concevoir comme source obstacle à la constitution des représentations architecturales », cette question, elle prend sa source dans des réflexions d'étudiants. J'ai terminé en 2004-2005, et c'était la phase de la révélation de certains architectes qui, en référence à un monde jugé de plus en plus complexe et de plus en plus particulier, l'architecture devait refléter cette complexité, cette richesse et ce pluralisme. Et donc, par exemple, Peter Iselman qui construit la cité de la culture en Galice, qui s'intéresse à des questions de figure de fond, on en parlait, et qui finalement, au lieu de se positionner par rapport à cette complexité, en fait un simple reflet. Donc la question qui alimente ça, c'est comment les architectes se positionnent par rapport à la complexité du monde, en tout cas du monde actuel. Alors, d'un point de vue théorique, il est courant, donc depuis 30 ou 40 ans, depuis qu'apparemment la théorie de l'architecture est devenue chose académique, commence à se multiplier toute une série d'ouvrages qui sont des recueils, des collections d'essais, soit essais faits par des architectes praticiens, soit des essais d'historiens, soit des essais de critiques, soit des essais plutôt théoriques. Alors j'avais commencé mon article par l'introduction d'un des derniers ouvrages de ce type, et donc on y trouve un texte écrit notamment par Ryan, où on retrouve l'idée de l'architecture comme, en anglais, expanded field, donc l'architecture comme un domaine étendu. Et donc, dans cette introduction, les auteurs situaient la dernière phase, ou le dernier moment théorique de l'architecture, ou de la discipline architecturale, dans justement la période que certains appellent post-critique, mais l'idée qu'à un moment donné, le post-structuralisme, tous ces champs philosophiques ou sciences naturelles ont alimenté l'architecture, toute une série de nouvelles notions, et nouvelles notions que les architectes se sont appropriées. Donc ce n'est pas vraiment le dernier moment théorique, parce que depuis, certaines personnes ont parlé de pragmatisme, par exemple, et le développement durable, par exemple, reste aussi un enjeu permanent. Donc ce n'est pas vraiment le dernier moment théorique. Ça l'était pour eux. Ils y prennent par exemple un exemple de la description du parc de la Villette, de Bernard Tschumi, qui était pour certains le premier projet urbaniste déconstructiviste. Et alors ils évoquaient le fait que finalement la référence extradisciplinaire aux notions qui étaient sur la slide précédente, en complexité, à détermination, ce genre de choses, générait finalement des objets architecturaux très particuliers, mais qui, une fois construits dans la réalité, étaient relativement anodins, anonymes. Donc, par exemple, ils évoquaient que l'activité du parc était liée, comme tous les autres parcs, à sa situation urbaine, à l'activité des citoyens, plus qu'au caractère intrinsèque par exemple, des folies qu'on voit ici. Ce que les auteurs défendent dans leur introduction, c'est que plus que le nouveau langage concret que ces références théoriques ont permis, ce dernier moment théorique, ont permis de réévaluer les moyens, les références de la discipline architecturale. Par exemple, pour le projet de la Villette et la génération morphologique des folies, Bernard Tschumi développait des stratégies maturées dans des travaux précédents, les Manhattan Transcripts, et il associait l'objet architectural à toute une série de compositions, notamment mouvements, je ne les connais plus, mais en voilà l'évocation. Donc, l'idée est que la théorie de l'architecture puisse sensibiliser la discipline à la myriade des relations, proximité, interconnexion, enchevêtrement, distance, contiguïté, pour du court-circuit que les bâtiments établissent entre eux et les formes de vie qui palpitent en leur dedans et leur travers. Donc, toutes ces références théoriques, complexité et autre chose, plus que des analogies, sont intéressantes dans la mesure où elles sensibilisent à plutôt la dimension phénoménologique ici de l'architecture. Donc, si on, parmi les notions qui ont été popularisées, se trouve par exemple la notion de complexité. Donc, par complexité, on peut entendre une complexité morphologique, et alors ça donne un argument pour valider des travaux comme ceux de Frangéry ou autres. Mais on peut aussi prendre la complexité comme un enjeu épistémologique et s'intéresser, par exemple, et voir ça comme l'état de fait du domaine architectural, qui est fait d'une série d'acteurs, une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de connaissances et une réalité, pas multiple, mais en tout cas qui échappe à une représentation unitaire. Donc, mon propos est ici de défendre l'idée que si on veut défendre une posture épistémologique éclairée sur l'architecture, cette complexité est incontournable et il faut composer avec. Alors, la complexité est liée naturellement aux différentes relations qui sont établies entre ces différentes composantes, acteurs, connaissances et réalités. Et je vais poursuivre par l'idée que c'est la connaissance peut enregistrer cette complexité. Alors, cette idée-là, donc on peut la tracer dans la philosophie. Par exemple, donc en gros, Kant avec l'espace et le temps, qui sont les catégories de l'entendement, c'est-à-dire l'espace et temps sont des filtres à la perception et à la perception de la réalité et à la constitution d'une connaissance. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'idée d'espace, ici Paolo Amaldi en donne deux. Donc s'il fallait opérer une première distinction, on pourrait commencer par inscrire ce concept, l'espace à l'intérieur de deux opérations, l'une de formalisation et l'autre de représentation. Dans le premier cas, la notion d'espace relève de la démarche scientifique et consiste à qualifier un certain périmètre de pertinence ou de compétence d'une discipline ou d'un champ disciplinaire. On est alors dans un cadre formel de pure description qui ne prend théoriquement pas en compte le sujet en tant qu'agent de description. Ça, c'est la formalisation scientifique, rationalisation, qui permet des choses et pose des problèmes également. En complémentairement à cette première compréhension, on peut aussi assimiler l'espace à un ensemble des énoncés formels. Face à ce qu'on pourrait appeler le débordement du monde, l'homme a recours à des procédés d'appropriation de type symbolique et figural. En quoi consiste-t-il ? À reconduire les forces naturelles inconnues ou les phénomènes imprévisibles, complexes et changeants de la nature, à des formes narratives ou à des figures stables. Donc l'idée est que, au sein de l'architecture, ces deux conceptions de l'espace, l'une à vocation donc plutôt liée à une formalisation, l'autre a une représentation, ces deux représentations sont superposées. Et cette superposition génère la difficulté de parler de la chose architecturale. Donc, si on veut déceler cette superposition, on peut se référer à une tradition épistémologique qui, en effet, pourrait prendre origine à Kant, mais que des gens comme Edgar Morin expliquent plutôt vers des travaux comme celui de Charles Sanders Peirce, qui est le fondateur de la sémiotique anglo-saxonne, donc à l'opposition de celle de Saussure. Et donc, dans cette tradition épistémologique, enfin, si c'est une tradition épistémologique, il y est partagé l'idée que la connaissance est liée à un processus de représentation qui est lié à un environnement, qui est lié à un sujet connaissant, à des notions d'activité et des choses ainsi. Donc, par exemple, si on prend la sémiotique de Peirce, qui à la fois l'opposition de la sémiotique de Saussure qui procède par une opposition signifiant-signifié, Peirce introduit la notion d'interprétant. Donc le signe matériel est une chose, l'objet est une chose, mais l'interprétant est, en troisième instance, l'interprétant permet la médiation entre objet matériel, entre signe matériel et objet de pensée. Donc, l'idée est que la représentation est un processus et que cette représentation est fondatrice, constitutive de toute connaissance, en tout cas, peut-être pour le cas de l'architecture. Donc si on lit Morin, tout passe par la représentation, c'est la plaque tournante entre passé et présent, entre veille et songe, aussi bien que la perception du réel s'oppose aux visions imaginaires. La représentation est l'acte constitutif, identique et radical du réel et de l'imaginaire. Alors, cette idée que la connaissance est liée à la représentation est liée à l'activité d'un acteur pris dans une matrice d'acteurs et en regard d'une réalité qui est complexe. Pour le cas de l'architecture, on doit s'interroger sur quelle activité est fondatrice de cette complexité. Donc, dans les activités qui font de l'architecture, il y a bien sûr les activités d'habitation, on en a beaucoup parlé, les activités de construction, mais à mon sens, l'activité de conception est plus qu'importante, mais elle est fondatrice et principale. Donc, l'intérêt de cette idée est que quand on conçoit, on est pris dans une matrice d'acteurs, on en fait des références à des connaissances et on est pris à une réalité qui, bien qu'il nous échappe, nous alimente. Pour ce qui est de donc cette prise en considération donc l'idée d'activité et donc cette idée, ce projet épistémologique que certains appellent constructiviste, certains l'appellent aussi pragmatiste, ça revient à penser l'architecture non plus en tant qu'objet, mais plutôt en tant que projet. Je détaillerai donc d'un architecte, mais après on peut faire des extensions, projet d'une société, ou projet par analogie d'une réalité qui se transformerait par elle-même. Donc, ce passage de l'objet au projet est pour moi un moyen d'éclairer les difficultés de parler d'architecture, c'est-à-dire le fait que dans l'objet architectural sont rassemblées toute une série de conceptions relativement différentes, qui sont par exemple deux conceptions de l'espace, une formalisée, une perçue, une représentée. Alors, j'en viens à ma question de recherche. Donc, parmi les différentes notions qui ont alimenté la théorie de l'architecture au XXe siècle, la notion de contexte est également, en tout cas, a alimenté ma réflexion. Donc, je pense que ça est là. Cependant, la notion de contexte, comme toute notion architecturale, on l'a vu tout ce matin avec, par exemple, la construction chez Alberti, la notion de contexte n'est pas quelque chose d'évident. Par exemple, si on en croit Tom Spector, qui lui jette un regard plutôt une interprétation éthique de la chose architecturale, il avance ceci, c'est qu'un contexte ne peut pas être décrit, il est toujours justifié. Justifié, c'est-à-dire que par rapport au contexte, qui serait la particularisation des composants du domaine architectural, donc un contexte, c'est Easy Reactor, c'est un morceau de la réalité et c'est aussi le concepteur avec ses a priori, ses craintes et ses désirs. Ce contexte ne peut pas être objectivé, mais il est toujours passé au travers d'un filtre, filtre qui est l'interprétation de toute autre chose. Et donc, à la différence, donc, ce contexte ne peut pas être assimilé à une situation de vie objective, complète, mais l'architecte, ou en tout cas l'architecture, est toujours un morceau de cette situation de vie. Morceau qui est selon les auteurs postmodernes, un morceau qui se veut être signifiant. Donc l'appel au contexte était avant l'avènement de la condition postmoderne dans les années 70-80, une volonté d'indiquer la crise du sens posée à une certaine architecture moderne, par exemple celle du style international, donc une architecture désancrée, uniforme, avec un contenu politique très, très ambivalent. Donc pour Bernard Huet, l'appel au contexte fait partie justement de ce retour au refoulé de l'architecture moderne, refoulé qu'il identifie en trois parties, d'une part l'histoire, le contexte, je viens d'en parler, et le métier. Donc, si on s'intéresse au contexte historique, et donc au passage d'émergence de cette sensibilité au contexte, on peut en identifier trois foyers. D'autres le font beaucoup mieux que moi, ils sont historiens. Ces trois foyers sont américains, italiens, et alors un foyer n'est pas associé à un foyer géographique particulier, mais le premier foyer est celui plutôt des Siam. Donc au sein des Siam, vous le savez peut-être, à la dernière Siam, une série d'architectes de la génération suivante, donc plutôt les Smithson, les De Carlo, les Aldo Van Eyck, se sont organisés autour d'une série de réflexions et ont contribué à la déstabilisation des grandes idées établies par les Siam dans les premières années. Et la notion de contexte, la notion de sens liée à la spécificité d'une autre apparaît chez eux, notamment dans le Dor Manifesto. Cela apparaît en ces termes. Habitat. L'habitat est concerné par la maison particulière dans un type de communauté particulière, et ces communautés sont. Ces typologies de communautés sont similaires partout. La maison, le village, la ville, et on va dire le grand urbain. Et alors, on a ce petit schéma qui est inspiré des travaux de Patrick Guedes, où on a une série d'établissements humains qui prennent un sens particulier en relation avec le paysage dans lequel ils sont intégrés. Donc la notion principale de la Think Ten, présentée par le couple Simpson, c'est cette notion d'habitat. Donc derrière la notion d'habitat, il y a l'idée que le sens est lié à un lieu, à un paysage, et que au sein de l'habitat se tisse une série de choses que le couple Smithson appelle pattern d'association, c'est-à-dire que comme il identifie dans un projet théorique qui est un projet de logement pour Golden Lane en 1952, ils assimilent un contexte, selon eux, aux enchaînements de significations qui sont en fait en gros la hiérarchisation de l'urbain et qui correspondrait à la hiérarchisation sociale, et que l'architecture doit se positionner en reflet de ces patterns, et c'est-à-dire que il y a l'idée de contre-forme, c'est-à-dire que l'espace social a une structure et que l'architecture est le reflet de cette structure, faisant cet effet de reflet, elle est signifiante. Donc le second foyer, il prend naissance en Italie, autour de la personnalité d'Ernesto Rogers. Ernesto Rogers était une personne également active au sein des SIGAM, notamment la tour Velasca, ici en photographie, a été notamment lieu d'un débat assez piquant au sein d'une des dernières SIGAM. Et donc, ce que défend Rogers, c'est l'idée que la signification d'une ville est ancrée dans ce qu'il appelle la préexistence urbaine, les conditions préexistantes. C'est-à-dire que la ville est un phénomène concret, et que ces phénomènes concrets sont tributaires de la continuité de l'histoire et de la continuité du sens des choses. Alors, une fois appliqué à l'architecture, les gens qui gravitent autour d'Ernest Rogers, qui sont les Rossi, les Grassi, ou ici Carlo Anonimo, ces personnes nous voient dans la notion de type le moyen théorique pour capter simplement sa permanence du sens. Donc, en faisant des classements typologiques, il s'assure, donc basé sur l'analyse de la ville, il s'assure justement de prolonger ce sens qui est ancré dans l'histoire des villes. Une fois cette analyse faite, le projet architectural est une recombinaison rationnelle. D'ailleurs, certains de ces architectes s'appellent ou s'annoncent néo-rationalistes. Donc l'architecture est une recomposition rationnelle de ces typologies élémentaires. Le troisième foyer, il est américain. Alors, Robert Venturi est un des premiers à utiliser le terme, notamment dans son mémoire de fin d'études, qu'il réalise dès les années 50. Donc là, il y a l'idée que le sens est lié à des questions de perception. Et en fait, c'est plutôt la popularité de toute la diaspora intellectuelle d'après-guerre. Par exemple, les théories de la Gestalt ou les lois de la vision sont appropriées par le domaine des arts et le domaine de l'architecture. Et donc la forme architecturale apparaît comme un bâtiment composite qui doit, pour des raisons de continuité de l'environnement visuel, l'architecture donc, qui est liée aux forces du dedans, donc à la fonction et à la nécessité, l'architecture doit se plier aux forces extérieures qui sont, par exemple, une forme urbaine continue. Donc là, vous avez le Palazzo Borghese, il est au milieu de l'image qui est un scan du plan de Noli. Donc, Colin Rowe, qui, dans son ouvrage Collage City, fera un peu la synthèse de cette posture américaine, oppose en permanence toute cette idée de l'architecture comme objet composite et d'une partie la ville comme grande forme continue. Donc, selon moi, ces trois sensibilités ont généré trois types de représentations de la ville et surtout trois types de représentation de l'architecture qui doit être insérée dans la ville. Et donc c'est une manière très simplifiée de voir les choses, mais en tout cas, ces trois représentations, ces trois écoles, ces trois doctrines ont généré au sein de ce qu'on appelait postmodernité une série d'interprétations relativement réductives de ce sens, qui au départ était la recherche de ces postures. Donc, la postmodernité est pour ces questions et pour le partage de ces représentations problématiques. Donc, on peut appeler postmodernité l'idée que l'architecture est comprise comme un fait culturel et esthétique avant tout, et le repli théorique qui s'y passe, on peut l'expliquer pour plusieurs raisons. Le fait, par exemple, que les architectes ont moins de commandes conjointes et qu'il y a une grande production écrite qui est faite. Donc, en gros, tous les architectes présentés ici avant ont tous beaucoup écrit à ce moment-là, plus que dans les années qui ont suivi. Et surtout, c'est une phase d'échange de ces écrits. Il y a derrière, toujours au sein de cette période postmoderne, l'idée d'autonomie disciplinaire, qui est un peu une revendication politique des architectes par rapport aux lois du marché. Et enfin, la grande influence des sciences humaines, notamment l'anthropologie et le structuralisme, qui permettent de formaliser ces représentations, ces visées théoriques sur l'architecture. Le problème est qu'au moment de cet événement postmoderne, donc il y a ces grandes périodes de partage, et que ces trois sensibilités sont réduites, d'une certaine manière, aux représentations qu'elles ont portées sur la ville. Il y a un texte très pratique, qui est très pratique pour mon travail, qui est un texte de Remco Lass, qui justement fait la critique en moins due forme de ces trois doctrines l'une par une. Louis Hatzwak, Alain Colas, fait la critique de ces trois doctrines, en tout cas de ce que sont devenues ces trois doctrines pour assumer sa propre vision culturelle qui est tout aussi problématique que les précédentes. Pas problématique, tout aussi radicale en tout cas. Et alors, il avance les choses comme ceci. Donc, contre la vision contextualiste, donc, que moi j'appelle les Américains, donc cette idée que l'architecture est une dialectique entre un objet déformé et une forme continue, Rem Koolhaas annonce ceci, que dans un acte de projection plus ou moins inspiré, le contextualiste génère un scénario qui simule l'histoire de 400 ou 500 prochaines années. Au travers de cette extrapolation faite au nom de l'histoire, le contextualiste court-circuite la continuité historique. Contre les rationalistes, il annonce ceci, c'est-à-dire qu'au travers de cette clôture arbitraire, le rêve infini rassurant d'un monde habité par une série de typologies et morphologies reconnues, dotées d'une longévité éternelle et capable d'absorber son tout programme, devient sinistre quand, par exemple, la bibliothèque publique de Stockholm par Gunnar Asplund est recyclée honteusement à Luxembourg pour devenir le nouveau Parlement européen. Enfin, contre ce qu'il appelle le structuralisme néerlandais, le structuralisme néerlandais, c'est non pas le structuralisme comme une science humaine, mais plutôt l'œuvre architecturale de personnes comme Aldo van Eyck ou Herman Herzberger, qui reprennent, on va dire, la posture théorique qui a maturé au sein des Timten pour faire une architecture très, très littérale comme ça. Et donc, contre ce que Koolhaas appelle le structuralisme néerlandais, il annonce ceci, que la doctrine prêche au nom de l'humanisme que toutes les grandes institutions peuvent et doivent être divisées en de plus petits composants qui rétablissent l'échelle humaine, comme si toute institution, peu importe sa nature, en deviendrait plus transparente, moins bureaucratique, moins aliénante, plus compréhensible et moins rigide par le simple acte de subdivision. Donc, il va de soi que la première chose qui gêne Rem Koolhaas, c'est l'interprétation que tous ses prédécesseurs ont eue de l'histoire, et l'idée que cette histoire a une permanence, et que l'architecte doit prolonger, continuer cette permanence. Mais, selon moi, ce qui gêne Rem Koolhaas dans ces trois doctrines, ou en tout cas dans l'héritage de ces trois doctrines, c'est l'idée que tout contexte de situation est assimilé par un processus de lecture fait 20 années plus tôt. Cette doctrine, cette représentation amène à voir le contexte comme quelque chose d'a priori. Donc ça, par exemple, si je prends les contextualistes, l'idée de forme continue, c'est une vision idéalisée de la réalité historique des villes. Donc, cette idée de contexte a priori, pour lequel la conception, ça revient à se limiter à un processus de lecture, mais quand on arrive au processus d'écriture, c'est-à-dire de conception réellement, on se limite à transposer les choses. Donc, si on fait référence encore à ce que j'imaginais être la constitution du sens, c'est-à-dire que les significations sont toujours liées à donc c'est le petit schéma à gauche, une série d'acteurs, une appropriation personnelle et une réalité. Donc le point noir est la réalité, la flèche sur elle-même c'est l'autoréférence, et la flèche vers d'autres ronds blancs c'est les sujets voisins. La représentation, si elle est biaisée, est susceptible d'expliquer, peut-être pas d'expliquer, mais de catégoriser trois types de positionnement assez radical et peut-être problématique par rapport à une situation urbaine ou un contexte. Donc, pour exemplifier l'idée de transposition d'a priori disciplinaire, donc sans autoréférence et sans contrainte de la réalité matérielle, par exemple, le couple Smithson, pour le projet de Robin Hood Gardens, donc ils ont 20 ans après leur projet pour Golden Lane, l'opportunité de construire avec un programme relativement similaire. Or, l'analyse sociologique qu'ils ont établie pour le projet pour Golden Lane est basée sur un tissu social qui est 20 ans plus tard plus le même. Donc, le projet de Robin Hood Gardens est si on veut, la transposition d'une typologie étudiée dans les années 50, dans un contexte relativement similaire, mais dans un contexte socioculturel et économique très différent. Donc mon texte le détaille, mais ce projet Robin Woodyarden, c'est un échec pour toute une série de raisons, notamment justement par cette idée d'imposition, de transposition. Une autre posture assez caricaturelle serait celle d'appropriation. Donc si on prend l'œuvre d'Aldo Rossi, donc Aldo Rossi qui écrit en 1966 l'architecture de la ville, et il plaide, comme tous ses contemporains italiens, pour la lecture d'une ville et le projet architectural comme justement une redigestion typologique de ce qui a été. Or, quand on s'intéresse de plus près à l'œuvre d'Aldo Rossi, on se rend vite compte que Aldo Rossi étant une personne avec beaucoup de culture, la première lecture qu'il fait de cette ville, elle est très vite assimilée chez lui à un langage qui devient très personnel, également très coloré, et langage qui fait référence à des mythes intérieurs. Et donc sa volonté originelle, par exemple, de faire de la typologie un processus de négation de lecture, elle devient très vite, notamment en 87 à Berlin, en tout cas ce n'est que mon avis. Le projet d'Aldo Rossi devient très vite une espèce de jeu autoréférentiel de lui à lui-même, sachant que son langage personnel a été élaboré bien avant, et alors après il ne fait plus que le décliner sans respect des contraintes contextuelles. Enfin, une troisième posture serait une posture mimétique. Donc ce n'est pas la mimésis dont on parlait tout à l'heure, quelque chose qui était très très différent en termes de sciences de l'art. Par mimétisme, on peut simplement entendre le fait que, comme ça a été le cas à Bruxelles, notamment à la place d'Espagne, donc pour les Bruxellois ou ceux qui traversent, quand vous sortez de la gare centrale, vous descendez vers la Grand Place et vous avez sur votre droite une série d'hôtels qui sont des reconstructions passéistes, même pas des réinterprétations, mais un plaquage de typologie néo-renaissance flamande, sachant que le terrain était vierge avant cela. Donc le mimétisme apparaît quand on n'a plus de référence à des représentations disciplinaires partagées et quand on a plus d'appropriation par un architecte et une poésie intérieure. Donc ces trois positions qu'on peut estimer réductrices sont justement liées au fait que à l'avènement postmoderne, on est passé directement d'un processus de lecture à un processus d'écriture, sans concevoir justement la conception comme la scène d'articulation des significations et surtout la scène de transformation d'une situation donnée en contexte qui est interprété et qui, au travers de l'architecture, du projet d'architecture, cette réalité devient quelque chose qui est différent, qui est autre. Donc j'en viens à opposer justement à ce manque des postmodernes, en tout cas de certains postmodernes. J'en viens à identifier deux obstacles posés par une situation architecturale à la conception de son œuvre. Et le premier obstacle serait celui de spécificité. Non pas spécificité, j'entends le simple fait que la situation de l'œuvre est toujours une particularisation des composants du domaine architectural. Donc certains acteurs, une réalité relativement circonscrite et un ou des concepteurs particuliers. Donc pour le cas de la conception, penser l'architecture en tant que projet est intéressant parce que ça remet en lumière le fait qu'au sein de la conception, au sein du temps de la conception, c'est-à-dire temps qui est souvent même assez court, la conception est un moment particulier où les trois références simultanées, références qui sont problématiques dans les trois exemples que j'ai évoqués avant, au sein de la conception, on peut espérer que les trois références, c'est-à-dire référence à soi, l'autoréférent, référence aux autres, les connaissances a priori, et référence à la réalité matérielle, on peut imaginer que ces trois références sont simultanées et que l'architecture est susceptible d'embrasser ces trois types de références. Donc ça revient à dire que il faut remettre en avant l'idée de poiesis. Donc Alan Colquhoun le traduisait dans justement un texte de commentaire de l'architecture postmoderne. Et donc il annonce ceci en critique de deux des trois courants que j'évoquais tout à l'heure. Donc le structuralisme, entend non plus comme doctrine architecturale, mais comme référence théorique, structuralisme au sens science humaine. Le structuralisme nous alimente du champ de possibilités qui existe à chaque moment précis. Ce faisant, il réintroduit l'élément de choix qui avait été exclu par le fonctionnalisme et l'historicisme. Il reste toutefois silencieux à propos des motivations à l'origine des choix que les artistes doivent continuellement faire, choix qui collectivement peuvent déterminer le changement d'une situation paradigmatique vers une autre. On trouve aussi des propos similaires dans un petit texte qui était compilé, je pense, par un colloque dans les années 2000 auquel certains d'ici ont dû assister. Et donc Pérez Gomez, en réfléchissant lui également sur la notion de contexte en architecture, il annonce ceci, surtout en commentaire de l'interprétation postmoderne de cette notion de contexte. Il dit que le contexte dans le sens large des situations culturelles est le fondement épistémologique de l'œuvre architecturale. Ce que dans l'herméneutique contemporaine on appelle l'univers de l'œuvre est essentiellement pour la compréhension de la signification en architecture. C'est grâce à la poésie, au faire, que dans la fragmentation de nos vies individuelles, ce projet d'interprétation peut devenir création, connaissance et donc orientation existentielle. Le terme de poésie, au passage, est également présent dans les textes d'un épistémologue français proche de Guillaume Morin. Jean-Louis Lemoigne, et il emprunte la notion de poésie à Léonard de Vinci, et l'idée que l'inventivité, la création, la conception est fondatrice du sens. Donc, premier obstacle, la spécificité. Le second obstacle serait l'indétermination d'une situation architecturale, c'est-à-dire que au sein du projet architectural, une situation donnée est transformée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir... l'architecture est une mise en abîme des conditions contextuelles, donc on remet tout en question, et donc l'après sera toujours différent de l'avant, sauf si on est dans une situation mimétique. Donc pour répondre à cette idée d'indétermination, on doit développer une compréhension de l'architecture en termes de projet, et par exemple, on trouve dans les textes, dans la préface en 82 de Vittorio Grigotti, de son ouvrage « Le territoire de l'architecture », on trouve l'idée de modification. Donc, si la géographie est donc la matière dont les signes de l'histoire se solidifient et se superposent en une forme, le projet d'architecture a la tâche de révéler, à travers la transformation de la forme, l'essence du contexte environnant. On peut alors recourir pour l'élaboration du projet à de nouveaux principes et à des méthodes qui mettent au premier plan la stratégie de l'emplacement, la matière de se placer sur un terrain situé dans un environnement spécifique, en cherchant à connaître le contexte au travers de sa modification. Dans une conception aussi dynamique du projet, la chose architecturale est surtout système de relations, de distance, de mesure des intervalles et d'un objet isolé. La spécificité de la solution est alors étroitement liée à la différence des situations. Et donc, la concaténation des deux obstacles font que je trouve dans l'idée de conception deux choses. L'idée de spécificité, c'est-à-dire que le sens est construit de manière simultanée, toujours aux trois références, qui en anglais j'avais appelé une fois self-depiction, disciplinary references and mimicry, qui est ce que j'appelle ici mimétisme. Et enfin l'idée qu'au cours du temps, le petit embryon qu'on voit naître dans la représentation du contexte, qui est le carré à 9 cases à gauche, on peut imaginer qu'au sein de la conception, ce premier jet sera transformé. Donc voilà. Et je conclue sur ce petit diagramme, qui est l'ébauche du travail qu'il me reste à faire. Voilà.
comme historien, je sais un texte
Parce que c'est une compréhension très. Je montre pragmatique du contexte. Donc en effet, en fait, si on se réfère aux années 50-70, l'idée de contexte était intimement liée à justement cette notion d'histoire. Mais ça correspond à une compréhension d'un contexte comme quelque chose qui est préexistant et une vision, donc pas du contexte en même. Donc une vision, par exemple, qui est là, qui est via des activités d'habitation. Donc moi, je m'intéresse à un autre contexte, comme l'interprétation qui est faite au sein de la conception, c'est-à-dire un moment très court, et comment, par la conception, ce contexte est transformé. Donc il va de soi que... donc c'est une interprétation peut-être très rationaliste des choses, mais il va de soi que... chez ces gens, parce que moi, parce que j'estime qu'eux l'ont très bien mieux fait que moi, le contexte... l'histoire est dans le contexte. Mais le problème est que chez ces gens, on construit une théorie sur des principes de lecture, donc qu'est le contexte, mais la question qu'ils ont manqué, c'est le propos que j'essaie d'introduire ici, c'est que l'architecte, donc en effet, il est face à cette histoire, mais il doit la transformer. Et ce processus de transformation permet des choses, mais il en empêche également. Et donc c'est justement ce processus complexe de voilement, dévoilement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui moi m'intéresse.
L'histoire interprète aussi.
Oui. Mais donc, l'historien.
Autant l'architecte n'a pas pu le donner l'histoire, comme l'histoire d'architecture, que l'architecte, quand il est face à une situation, il peut construire quelque chose. Mais... il manipule de la même manière, je ne vois pas.
Mais peut-être que la nuance est que le. Et justement, cette idée de conception, ce n'est pas une conception facile, c'est une conception active. Donc, dans la mesure où l'architecte, peut-être, à la différence de l'historien, le contexte après le passage de l'architecte sera transformé. Donc, peut-être, en fait, la nuance est justement dans la prise au réel, certainement. Alors, il y a de soi que si on nomme l'histoire, on la transforme, mais peut-être que le processus est plus long. Et donc justement, c'est le fait qu'au sein de la conception, il y a cette idée de transformation importante qui moi m'intéresse de la mettre de l'éclairer.
Il y a une... Tu fais partie d'une bande, enfin, d'un groupe auquel je n'appartiens pas. J'essaie de vous comprendre, en fait. Un des points qui me paraît délicat, c'est que c'est l'usage du mot conception. Alors je voulais savoir si vous aviez pris conscience que que le mot conception était un piège ouvert, terrible, parce qu'il vous permet sans aucun problème de prendre des théories issues qui ont essayé de comprendre la conceptualisation, et qu'en réalité vous voulez l'adapter à la création. Évidemment, il y a un mot, il y a l'immaculée conception qui, effectivement, permet de penser que la conception, c'est aussi une forme de création. Mais en fait, je me demande si vous avez pris conscience de ça, si ce problème que je me fais est faux, ou bien est sans importance. Mais effectivement, parler de conception passive ou de conception active oblige, me semble-t-il, à devoir trouver un nom exact pour la création active et un nom exact pour la création passive, sans quoi j'ai l'impression qu'on se sert d'un modèle qui en fait parle d'autre chose, justement de pragmatisme, mais on est plutôt du côté de la linguistique, quoi, et donc du côté des régimes de connaissance, pas nécessairement du régime d'un faire, est-ce que ça c'est une chose que vous avez conceptualisée ou pas?
En fait c'est très délicat parce que le terme de conception, en tout cas, il est popularisé dans les milieux français par des gens comme Robert Prost, Philippe Boudon se l'a approprié également. Donc, le terme conception est en France très ambivalent. Donc, certains l'opposent justement à la création, notamment Boudon le fait. Maintenant, donc, l'appropriation, par exemple, si je prends le contexte français, l'appropriation française, elle date des années 80-90. Et par exemple, si on lit des textes des années 2000, donc par exemple Robert Prost annonce que, par exemple, entre justement la première transposition, qui sont des appropriations très, très anglo-saxonnes, justement, donc rationalistes, quel processus en termes de méthode, plutôt le design methods auquel faisait référence Damien dans un autre contexte. Entre justement ces premières compréhensions, la conception de quelque chose, de l'interprétation méthodologique, par conception, en fait, la question s'est raffinée, dont par exemple, Robert Frost, je le détaille dans le texte, je ne sais plus si c'est dans notre bas de page, à un moment donné, donc, la conception elle-même se re-questionne et il en vient à refonder les questions qui sont quel est l'objet de la conception, donc, moi ici j'appelle projet, quelles sont les méthodes liées à ça, donc là c'est simplement le prolongement des théories anglo-saxonnes, et surtout quelles sont les méthodes de validation de cette conception. Donc pour le milieu français par exemple, il y a à un moment donné, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? En référence à quoi on le fait ? En anglais, c'est plus facile parce qu'on parle de design. Design non pas au sens l'objet design qu'on trouve chez IKEA, mais design comme un processus donc, qui implique une cognition, un plus près de la réalité, la transformation de cette réalité. Donc encore une fois, très mécaniste comme compréhension des choses. Mais c'est plus... à mon sens, ces questions-là émergent. Alors, il est évident que conception n'est pas conceptualisation, mais peut-être que, moi, ma prétention serait d'imaginer que la conception synthétise, en tout cas contient la conceptualisation, la cognition, la construction également. Donc ça, c'est aussi un projet de... Donc peut-être dans 15 ans, je retournerai à des choses plus élémentaires, mais... En tout cas, je fais l'hypothèse ici que la conception rassemble des choses qui seraient a priori différentes, elle est propre à l'architecture, et alors elle intègre ces choses qui lui sont... Après, il s'avère que peut-être l'architecture ne fait plus que conceptualiser, parce que finalement, il ne se fait qu'une idée de la transformation de la réalité, finalement. Et qu'on devrait parler de construction, bref.
Non, c'est juste, par rapport aux analyses, du coup, je ne comprends pas en quoi la conception serait propre à l'architecture.
Parce que ici, dans le sens de au sens face à ce que j'appelle domaine, c'est-à-dire dans les textes vraiment estampillés architecture, et essayer de s'interroger à comment les architectes justement formulent cette idée de conception, qui se théorise dans un autre champ. Mais, donc si, quand je dis la conception est propre à l'architecture, c'est les architectes ont des modes, des termes, des manières de nommer cette idée de conception. Et éventuellement, seconde hypothèse, est-ce que la conception architecturale est différente de la conception, je ne sais pas, de la cuisine, par exemple.
Moi, je dirais bien quelque chose. Je trouve que votre... Je pense que c'est même ça que vous avez développé. C'est un peu dans la poursuite de ce que dit Renaud. Vous dites, la situation de l'œuvre à concevoir... Mm-hmm. comme source et obstacle, non pas à sa conception, justement, de l'œuvre à concevoir, mais comme source et obstacle à la conception des représentations de l'architecture. Je ne sais pas si je peux soupçonner cela, qu'une fois que bon, on a une œuvre à concevoir, on considère automatiquement en bon honnête homme, justement, les sources, la situation, sa situation, justement, qu'on y voit une source et un obstacle, et que, est-ce que vous n'êtes pas extrêmement, peut-être cynique même, dans le bon sens du terme, dire c'est ça, après ça, on fait de la conception de représentation de l'architecture. Mm-hmm. Une telle qu'on a, dès qu'on a considéré la situation de l'œuvre à concevoir, mm-hmm. on ne fait plus que des représentations de l'architecture.
Mais donc,
c'est le titre, hein,
c'est peut-être oui, mais en fait, l'idée, justement, c'est que... Ma question de recherche, c'est justement en quoi l'activité de représentation liée à la conception conditionne ou pas justement l'œuvre.
Oui, donc la condamne, je dirais.
Et même
la condamne, enfin, de toute façon, on est tous condamnés, hein, mm-hmm. c'est clair. Mais
sans jugement. Donc,
non, sans jugement. Ouais. Non, condamné, enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, mais nous condamne ou nous porte à de la conception de représentation de l'architecture. En tout cas, c'est clair que c'est un piège pour nous tous. Ça, c'est un piège. Est-ce que c'est un piège mauvais ou bon, mais il est toujours là. Ça, je suis sûr.
La représentation dans deux sens. Moi, je vois dans les images que vous avez montrées, oui, des architectes qui partent d'une représentation qu'ils ont de l'architecture. Vous avez parlé de Rossi, vous avez parlé d'autres. Et donc, il y a aussi, alors après, le mode de représentation qu'on utilise en tant qu'architecte pour fabriquer l'architecture. Et donc, je ne vois pas très bien, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre les deux définitions de ce terme ? Oui, la question de la représentation mentale que nous avons dans la tête, et la technique de la représentation qui est celle de l'architecte. Il faut bien faire la différence.
Selon moi, oui, en effet, elles sont tacites. Il y a la représentation comme un processus d'émergence d'une nouvelle représentation. Donc, il y a la représentation comme quelque chose a priori qui serait disciplinaire, qui serait partagé, donc en gros la culture. Avec, donc ça va du plus abstrait au plus concret. Donc là, je ne rentre pas dans des détails que je ne connais pas de toute façon. Et alors, évidemment, tout ce qui est de l'ordre du médium, donc par exemple une maquette et une représentation. En tout cas, toutes ces représentations avec un S, peu importe leur niveau d'articulation, seraient selon moi liées à une activité de conception.
Ou de formalisation, parce que vous avez à un moment donné employé les deux mots.
Mm-hmm. Donc pour moi, la
formalisation et représentation.
La formalisation est une manière de faire une représentation particulière qui serait plutôt propre du scientifique, tout ce qui procède par distance, ce qui procède par détachement, par réévaluation, par axiome, alors que la représentation, donc dans la deuxième partie de l'extrait de. C'était son nom, d'Amaldi, c'est une représentation plus intuitive. Direct. Donc c'est une prise au réel qui est faite dans la contingence. Alors que la formalisation implique un recul. Et l'idée que dans la conception, l'architecte mélange, sort peut-être inconsciemment ces deux représentations. Donc il fait appel à des choses qui sont extérieures à la situation, des choses qui sont propres à son vécu, et à des choses qui sont dans la mécanique des sols, par exemple. Enfin non, pas la mécanique des sols, mais la couleur de l'argile, des choses qui sont dans la réalité. Mais en effet, j'ai bien conscience que je fais des tas.
Et bien, nous vous remercions vivement.
Merci.